Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 3 mai, une grande photo d'Arthur Noyer fait face à Nordal Lelandais devant les assises de Savoie. Les parents du jeune caporal contraignent l'accusé à regarder sa victime. Nordal Lelandais lui apparaît calme, posé et un peu vieilli. Trois morts dans une avalanche à Villard d'Arène dans les Hautes-Alpes. Le drame a eu lieu à plus de 3100 mètres d'altitude. Dans RTL Midi aussi, la rentrée atypique dans les collèges et lycées avec des demi-jauges dans les départements les plus touchés par le virus. Une crise majeure chez les Républicains. Vont-ils monter une liste face à Renaud Muselier? Le président de la région PACA a accepté que la liste LREM se retire à son profit. Un baiser de la mort. En voiture, mais d'occasion, le marché a progressé de 353% en avril par rapport à l'an dernier. C'est logique par rapport au premier confinement, mais il augmente quand même de 3% par rapport à 2019. Nous verrons quels sont les modèles les plus vendus. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Un lundi au soleil.
Et oui, on en profite parce que ça ne va pas durer. Mais bon, en attendant, du Grand Bleu au sud de la Loire, allez, juste quelques petits nuages qui iront possiblement jusqu'à la de pluie ou de neige sur les Pyrénées. Et au nord de la Loire, c'est un ciel un petit peu plus voilé qui se met en place, mais ça reste très beau. Des nuages plus épais qui vont se former en fin d'après-midi le long des côtes de la Manche. Et puis côté température, il a fait bien froid ce matin, mais on se rapproche à peine des normales cet après-midi. De 13 à Cherbourg à 21 à Bordeaux, 15 à Lille et Metz, 18 à Paris et Lyon et 20 à Nîmes.
La question du jour sur RTL.fr. Emmanuel Macron a-t-il piégé les Républicains? Vous êtes 63% à dire oui, à 23% de non. On attend vos arguments, votre ressenti au 32-10. Bonjour Pascal.
Bonjour Christelle. Et on rappelle effectivement que la liste de La République En Marche s'est retirée au profit de Renaud Muselier. Autre sujet du jour, une enquête pour violence volontaire et dégradation a été ouverte après les violences samedi à la fin de la manifestation du 1er mai. Plusieurs blessés au sein de la CGT. Si vous y étiez, vous pourrez témoigner. Les pêcheurs de la région Saint-Brieuc se disent en guerre contre le projet d'un parc éolien. Les travaux commencent aujourd'hui, vous pourrez réagir. Et puis il y a 34 ans, le 3 mai 87, Dalida nous quittait. Donc nous pourrons lui rendre hommage. À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
4 ans que les parents d'Arthur Noyer attendaient ce moment, la comparution de Nordal Lelandais pour le meurtre de leur fils. Il avait disparu à la sortie d'une boîte de nuit à Chambéry en avril 2017. Son corps n'avait été retrouvé qu'à l'automne dans une forêt 25 km plus loin. Nordal Lelandais, soupçonné par ailleurs du meurtre de la petite Maëlys, expliquait qu'il y avait une bagarre, que la victime l'avait frappé en premier. Lelandais, l'homme aux multiples visages, est réapparu ce matin devant les assises de Savoie, posé et vieilli. Et les parents d'Arthur Noyer ont placé une grande photo de leur fils juste en face de lui, Anne Le Hénaff.
Oui, on y voit Arthur Noyer souriant, bronzé, le regard malicieux. C'est pour que l'accusé soit face à Arthur pendant son procès, a expliqué l'avocat des parents. Ce portrait, Nordal Lelandais l'a à peine regardé en entrant dans le box vitré. Athlétique, il porte une chemise bleu clair, un pantalon kaki, des cheveux courts, une barbe poivre et sel de quelques jours. Il a regardé passer devant lui les 6 jurés tirés au sort qui vont donc le juger pendant 8 jours et qui ont enlevé leur masque un instant à la demande du président. Comme ça, vous pouvez voir nos visages, monsieur Lelandais. L'avocat de l'accusé, maître Jakubowicz, a ensuite longuement plaidé pour faire annuler un rapport d'expertise psychiatrique, puisque l'auteur de ce rapport a participé à une émission de télévision sur les tueurs en série. C'est une entorse inacceptable à l'éthique et au droit. L'avocat des proches de la victime s'avance alors et fige la salle en s'adressant au corps disparu. Arthur, ce qui reste de toi au fond de ta tombe doit se retourner avec ce que tu viens d'entendre. Tu avais, Arthur, un droit essentiel, celui de vivre. Maître Boulou se tourne alors vers le box et fixe Nordal Lelandais. Il avait le droit de vivre et vous l'avez tué. Assis, silencieux, Lelandais acquiesce, hoche la tête lentement plusieurs fois.
Anne Le Hénaff, en direct du palais de justice de Chambéry pour RTL. La justice va embaucher 1000 contractuels afin de réduire les délais de traitement des affaires civiles, par exemple les divorces ou encore les jugements au prud'homme. Il y a 1 300 000 dossiers en souffrance. Il s'agirait de postes de juriste assistant et de renfort de greffe, affirme Éric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux sera l'invité de Thomas Soto dans RTL Soir à 18h15. 3 morts dans une avalanche à Villard d'Arène dans les Hautes-Alpes. On l'a appris il y a quelques minutes. Le drame a eu lieu dans un couloir à plus de 3000 mètres d'altitude. altitude, Gauthier de Lombégard.
Oui, aux alentours de 10h30, des témoins alertent les gendarmes. Une avalanche vient d'ensevelir plusieurs personnes dans le secteur de la Grande Ruine, sur la commune de Villard-d'Arène, à 3100 mètres d'altitude. Une équipe de secours arrive sur place vers 11h. Deux hommes du peloton de gendarmerie du Haute-Montagne, un médecin du SAMU, une équipe cynophile, trois corps sont alors découverts. L'opération pour les sortir de la neige est toujours en cours. On ne connaît pas les identités de ces trois victimes, ni les circonstances de l'accident. Un hélicoptère du PGHM vient de décoller il y a un peu plus de 20 minutes environ pour venir en soutien aux opérations de secours. Les départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence sont actuellement placés en vigilance jaune avalanche par Météo France.
Gauthier de Lombégard, merci. Le déconfinement acte 1, la règle des 10 km est supprimée à partir d'aujourd'hui, même si le couvre-feu demeure sur tout le territoire à 19h. Et plus de 5 millions de collégiens et lycéens retrouvent leur classe en demi-jauge pour les 4e, 3e dans les 15 départements les plus touchés et pour tous les lycéens. Dimitri Ramelot, vous avez suivi cette journée particulière au collège Jean-Baptiste de la Salle à Metz, où tout le monde finalement était content de se retrouver.
Oui, très peu d'absents ce matin parmi les 850 collégiens répartis dans les 28 classes, mais certains comme Aurélie, 14 ans, élève en 4e, ont eu du mal à se concentrer, contente malgré tout de revenir.
Après 4 semaines de vacances et de distanciel, c'est un peu compliqué de reprendre et j'ai perdu le rythme. J'arrive pas à suivre et je comprends pas trop les cours, donc c'est compliqué aussi. Pendant presque 3 semaines, on s'est pas vus, même avec les vacances. Donc là, ça plaît bien, devant les copains.
Et la tenue des cours en classe entière n'a posé aucun problème. Strict respect du protocole sanitaire dans la classe de Martine, professeure de mathématiques.
Ça s'est bien passé, ils étaient contents d'être de retour. La plupart des élèves ont respecté les gestes barrières, le port du masque. Et je pense qu'ils étaient ravis d'être présents en classe pour se remettre au travail. Lentement, mais sûrement.
Et comme tous ses collègues, l'enseignante a apprécié ce retour en classe après 2 semaines de distanciel lors du mois écoulé, beaucoup plus efficace, notamment à l'approche du brevet pour les élèves de 3e.
Un reportage Dimitri Ramelot. 1884 classes ont dû être fermées ces derniers jours. Ça représente 0,65% du total. Quant aux autotests, 600 000 devraient être déployés par semaine à partir de la 3e semaine de mai, d'après le Premier ministre Jean Castex. Prochaine étape, le 19 mai, avec les réouvertures des cinémas, musées, théâtres et des terrasses. Et pour les accompagner, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a annoncé ce matin sur RTL qu'ils auront accès au fonds de solidarité pour le mois de mai. En fait, Martial Hue, on va débrancher progressivement les aides.
Oui, c'est le début de la fin du quoi qu'il en coûte en réalité. Rien ne va changer sur le fonctionnement du fonds de solidarité en mai, parce que la plupart des établissements vont rester partiellement fermés, vous le disiez, les hôtels, cafés, restaurants, sites culturels, salles de sport et sociétés d'événementiel. Et puis en juin, le fonds sera modifié pour accompagner le redémarrage des commerces. Ça, ce sera à partir du 9 juin. Autrement dit, un restaurateur qui rouvre mais perd encore 30% de son chiffre d'affaires par rapport à une période normale parce qu'il ne peut pas remplir l'ensemble de sa salle, touchera encore le fonds. Bruno Le Maire.
Le maître mot pendant la crise, ça a été la protection. Protection des salariés, protection des entreprises, protection des commerces. Le maître mot dans cette sortie de crise, c'est l'accompagnement. C'est aussi une incitation à la réouverture. C'est pour que chacun redémarre en se disant « il vaut mieux que je redémarre et que je rouvre, même si je perds un peu de chiffre d'affaires, puisque l'État va m'accompagner ».
Mais il y aura quand même une sorte de franchise. Comme dans l'assurance, notre restaurateur qui perd 30% de chiffre d'affaires ne touchera pas l'intégralité des 30%. Il y aura peut-être un delta de 10% qui ne sera pas pris en charge par le gouvernement. L'idée, c'est donc de préparer la fin des aides de l'État. Ce niveau de prise en charge sera justement discuté cet après-midi avec les responsables syndicaux et une réunion en août, devra, elle, déterminer comment on stoppe définitivement les aides.
Martial Hue, en Inde, on approche les 20 millions de cas de Covid et les hôpitaux saturés peinent toujours à sauver des malades malgré l'aide qui arrive en masse. 370 000 contaminations ont été recensées ces dernières 24 heures. L'Inde, soutenue à l'autre bout du monde, à Los Angeles, par le prince Harry, Jennifer Lopez, que vous entendez, ou encore Ben Affleck. Ils ont participé à un concert caritatif appelé Vax Live en faveur des pays pauvres. Il y avait des milliers de spectateurs, tous vaccinés. Le concert sera diffusé le 8 mai sur YouTube et sur les chaînes américaines. Dans un instant, crise chez les Républicains pour les régionales après l'accord entre Renaud Muselier et la liste LREM en région PACA.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Cette fois, la campagne des régionales est lancée avec un séisme à droite. C'est Jean Castex en personne qui a annoncé le retrait de la liste LREM en région Provence-Alpes-Côte d'Azur au profit du président de région sortant, le républicain Renaud Muselier. Il a même parlé de recomposition politique. Alors, Emmanuel Macron a-t-il piégé les républicains? C'est la question du jour sur RTL.fr, sur laquelle vous avez l'intention de dialoguer avec les auditeurs, Pascal Praud.
C'est en tout cas la première analyse. Muselier est une prise de guerre, ça ressemble à ça, comme Édouard Philippe, Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin hier. Les Républicains sont objectivement touchés, d'une façon générale, ils n'ont plus de leader, ils n'ont pas de programme. Mais est-ce pour autant une bonne affaire pour Emmanuel Macron? Si les Républicains explosent, une partie rejoindra La République En Marche, nous sommes d'accord. Mais l'autre partie, la droite filloniste, ne sera-t-elle pas tentée de répondre à Marine Le Pen? Donc, à votre question, Emmanuel Macron a-t-il piégé les Républicains? Je réponds par une autre question, Emmanuel Macron s'est-il piégé lui-même?
Alors, chez les Républicains, on a parlé hier de petites manœuvres électorales, de coups de poignard dans le dos. Renaud Muselier se voit retirer l'investiture LR. Que peut-il se passer maintenant, Marie Mollet? Va-t-il y avoir par exemple une autre liste?
Eh bien écoutez, c'est la question à 100 000 dollars que LR va devoir trancher dans les heures qui viennent. Aujourd'hui, c'est simple, LR n'a plus de candidat en PACA. Alors faut-il investir en catastrophe une nouvelle tête de liste? Sur ce point, le parti est divisé. Il y a ceux qui sont pour, par exemple l'eurodéputé François-Xavier Bellamy. Pour lui, il faut que les couleurs de LR soient représentées coûte que coûte. Et puis il y a ceux qui sont contre. Ce serait suicidaire, dit un cadre. On déroulerait le tapis rouge au Rassemblement National. Et puis il y a une autre question. Qui pour porter cette nouvelle liste? Qui ira au charbon pour un score très incertain? Pour l'instant, ça ne se bouscule pas au portillon. Les barons locaux ont déjà décliné. Éric Ciotti ou le maire de Cannes, David Lisnard, qui ne veulent pas risquer la gifle électorale. Il reste 15 jours à LR pour investir des dizaines de candidats. 15 jours, c'est extrêmement court. Bref, LR en pleine tourmente. Le parti doit se réunir en conseil stratégique demain matin. Pas sûr qu'il y ait une fumée blanche.
Autre question, Renaud Muselier peut-il être exclu du parti?
Alors non, pour l'instant, ce n'est pas dans les tuyaux, sur l'état-major du parti. D'abord parce que le patron des LR, Christian Jacob, espère encore le faire revenir à la raison, dit-il de son entourage. Ça ressemble à un vœu pieux. Et puis n'oublions pas, Christian Jacob, Renaud Muselier, c'est le clan des Chiraciens. Ce sont des compagnons de route de toujours. Donc ce feuilleton, c'est aussi un déchirement personnel. Le patron des LR a appris la trahison de son ami dans la presse.
Invité d'RTL Midi, Gilles Platret, vice-président des Républicains, bonjour.
Bonjour.
Votre parti doit-il monter une liste face à Renaud Muselier qui a donc pactisé avec LREM?
Ce qui est certain, c'est que le parti qui est le nôtre et qui défend des valeurs qui n'ont rien à voir avec le macronisme ne peut pas aujourd'hui accepter d'être cocufié par M. Muselier comme il est en train de le faire. Parce qu'à travers nous, ce n'est pas simplement des frustrations partisanes, c'est tout simplement l'électeur qui est trompé. Les électeurs des Républicains ne sont pas les électeurs d'En Marche. Moi, je respecte les deux, il n'y a aucun souci là-dessus, comme je respecte aussi les électeurs de gauche. Mais ces tripatouillages entre chapeau à plume se font toujours sur le dos du peuple, c'est ça qu'il faut voir, et ne peuvent que susciter le dégoût.
Bon,
pour répondre
alors...
à votre question, oui. Il faut faire une liste.
Oui.
Il nous reste très peu de temps avant le dépôt des listes. Vous savez que je suis engagé moi-même dans une compétition électorale en Bourgogne et Franche-Comté. Je porte les couleurs de ma formation politique. Vous savez, vous ne faites pas une liste comme ça en 15 jours. Alors, bien sûr que ça serait l'idéal, j'allais vous dire, parce que ça permettrait de défendre nos couleurs, mais il y a un aspect très pratique. Constituer une liste, ouvrir un compte bancaire, faire des budgets, lancer une campagne, tout ça dans un dépôt de liste qui va avoir lieu dans à peine 15 jours, le début maintenant,
bien sûr,
c'est dans 9 jours.
J'entends
c'est
bien,
complexe,
c'est le temps est compté, j'entends bien. Si vous ne faites pas de liste concurrente, vous appelez à voter pour qui entre Thierry Mariani, qui est proche de Marine Le Pen, et Renaud Muselier?
Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas question de vous répondre pour le moment, parce que ça serait une décision collective.
Bah, c'est assez essentiel, garde... oui, mais c'est quand même une question importante.
Mais je ne peux pas imaginer une seule seconde que les Républicains n'aient pas une position dans cette affaire, mais vous imaginez bien qu'après ce qui s'est passé hier, le tripatouillage du Sud sur le dos des électeurs, ça demande tout de même un tout petit peu de réflexion. Il y a des réunions qui vont être lancées, notamment demain, la réunion du Conseil stratégique, et on verra comment la situation va se débrouiller. Mais de toute façon, soyons bien clairs, la condamnation est unanime chez nous. Il n'y a vraiment que des gens qui peuvent être engagés pour sauver leur tête à tout prix, qui peuvent accepter une combinaison pareille.
Gilles Platret, vous êtes tête de liste LR en région Bourgogne-Franche-Comté et vous avez fait alliance avec un candidat du parti de Nicolas Dupont-Aignan. Pourquoi ce qui est valable pour vous n'est pas valable pour Renaud Muselier ?
J'ai fait alliance localement avec Debout la France, oui, effectivement. Et j'en suis très fier, je l'ai vraiment souhaité, de la même façon que cette alliance est élargie avec l'UDI. Là, vous me trouvez en ce moment dans Lyon, où je suis en train de faire campagne, avec notamment des élus UDI. Nous voulons rassembler des gens qui sont en opposition avec le gouvernement. Je ne vais pas chercher mes voix chez les macroniens. Moi, je ne suis pas un soutien du président de la République, je combats sa politique.
Donc c'est moins grave d'aller chercher des voix un peu plus à droite que vers LREM.
Ah, mais c'est pas que c'est moins grave, je ne me placerai pas sur un jugement moral, je ne suis pas sur un jugement moral. Je vous dis que c'est logique, rassembler la droite républicaine, y compris la droite souverainiste, ça me paraît être une démarche tout à fait logique en termes de conviction, plutôt que d'aller débaucher des macroniens qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de nous rouler dans la farine et surtout de tromper la France. Il y a une logique complète.
Ce qui vous dérange le plus, Gilles Platret, c'est qu'Emmanuel Macron continue à siphonner les Républicains.
Non, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on ne peut pas, du matin jusqu'au soir, lorsqu'on est sur des enjeux nationaux, combattre ce gouvernement et lorsqu'on est retourné dans sa région, faire comme si on était copain-copain. Ça me dérange, voyez-vous. Donc moi, je me bats avec des gens qui combattent le gouvernement, je me bats à leur côté, entre la droite, toute la droite, souverainiste compris avec Debout la France, et le centre, et sans doute d'autres d'ailleurs qui vont venir nous rejoindre bientôt. Et tout ça parce qu'il y a une cohérence, si vous voulez. Moi, ce qui est incohérent dans la position de Renaud Muselier, c'est qu'il a toujours combattu ce gouvernement et qu'il va faire campagne avec un ministre du gouvernement. Personne ne peut accepter ce tripatouillage.
Pas d'alliance avec La République En Marche. Vous aussi, vous parlez de tripatouillage comme Christian Jacobien. Merci Gilles Platret, vice-président des Républicains. Merci d'avoir été l'invité de ce journal. On fait une pause dans un instant. Le boom des voitures d'occasion, c'est un marché qui ne connaît pas la crise.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Si le marché des voitures neuves est au point mort, avec une baisse de 25% le mois dernier par rapport à 2019, celui de l'occasion prospère avec une hausse de 3%. Le Covid redistribue plus que jamais les cartes. On préfère les véhicules d'occasion moins chers. Comme quoi, Christophe Bourou, en quelque sorte, le diesel a encore d'avenir.
Oui, car même si les ventes de voitures essence progressent de 6%, la part des diesels est encore majoritaire et largement, même avec 56% des transactions. À titre de comparaison, c'est à peine 30% pour le neuf, car en dehors des agglomérations, cela correspond encore à un besoin très fort de se déplacer à moindre coût pour le carburant. Autre tendance, les Français préfèrent acheter une occasion récente qu'un modèle neuf. Ainsi, les voitures de moins de 5 ans ont la cote. Selon Vincent Encart, il est à la tête d'AutoScout24. C'est l'un des plus gros sites de vente en ligne.
La part de marché de ces véhicules a progressé de près de 30%. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur l'avenir économique, donc on préfère faire un investissement dans un véhicule moins cher, mais quand même moderne, plutôt que, je dirais, de s'engager dans un véhicule neuf qui risque de nous engager trop longtemps. Donc c'est un peu ça le problème actuellement.
Alors on est donc clairement parti pour une année historique. Déjà, depuis le début de l'année, le marché enregistre une hausse de près de 9% si on le compare à 2019, avec bien sûr la tendance des voitures vertes, même s'il faut relativiser. Faute d'offres, les électriques représentent moins de 1% des transactions.
Merci Christophe. Puisqu'on parle d'écologie, eux, ils sont vent debout contre les éoliennes en mer. Les pêcheurs de la région de Saint-Brieuc font de la résistance contre ce parc dont les travaux commencent aujourd'hui. Les professionnels de la Saint-Jacques, du Homard ou des Sèches dénoncent une destruction du patrimoine naturel. Julien Tréhorel, patron pêcheur, n'a pas l'intention de se laisser faire.
Croyez-moi, c'est la guerre. C'est la guerre tout simplement parce que nous ne sommes pas entendus par notre gouvernement, malgré toutes nos interventions au niveau politique, au niveau européen, pour prouver que ce projet n'a pas lieu d'être au sein d'une baie où la pêche artisanale a trouvé sa place depuis des décennies, qu'on ne peut pas implanter 62 éoliennes comme ça et en allant contre notre profession.
C'est un gros bateau que vous possédez ?
C'est un petit bateau honorable de 12 mètres. C'est vraiment un combat de David contre Goliath, puisque Goliath étant Iberdrola, une grande structure espagnole. Qui nous sommes dans ce monde aujourd'hui ? Nous sommes tout petits. Nous devrions réussir à élever les voix.
Julien Tréhorel au micro de Nicolas Bobby. Pourtant, 220 km plus bas, à Saint-Nazaire, un parc de 80 éoliennes est en construction à 12 km de la côte et suscite beaucoup moins d'indignation, Patrice Gabart.
En effet, le chantier du parc éolien de Saint-Nazaire avance bien. RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, a déjà installé 33 km de liaison sous-marine et 27 km de liaison souterraine jusqu'au futur poste électrique de Prinquio. Actuellement en travaux terminés aussi, les travaux de raccordement de ces deux liaisons sous le sable de la plage de la Courance qui a retrouvé son état initial et ses baigneurs depuis une quinzaine de jours. Pour la partie éolienne, l'usine générale électrique de Montoire a déjà fabriqué la moitié des 80 nacelles et le bateau L'innovation du groupe Démé a réalisé une avancée spectaculaire ces derniers jours en posant les quatre fondations de la sous-station électrique. Une étape clé qui permet de lancer, dès la mi-mai, l'installation par 12 à 25 mètres de fond des fondations des 80 futures éoliennes. Objectif annoncé, monter les premières éoliennes au printemps prochain pour une mise en service du premier parc offshore français d'ici la fin 2022.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons du côté de Calais pour un défi sportif et solidaire. 5 rugbymen vont parcourir le fameux chemin de randonnée du GR20 en Corse. Et ils en profitent pour bâtir une chaîne de l'espoir au profit d'enfants malades ou en situation de handicap, Franck Hanson.
Oui, pour ces sportifs calaisiens prêts à partir à l'assaut des montagnes corses, il y a surtout l'envie de se rendre utile. Et la collecte de fonds a déjà bien démarré pour Charlie Lavigne et ses coéquipiers, tous engagés pour 5 enfants. La cagnotte est ouverte et la mobilisation prend de l'ampleur.
Ça a démarré d'une idée un peu folle où je me suis dit je pars en rando et je vais aider un gamin. Et aujourd'hui on a passé les 12 500 euros, on a plus de 36 sponsors, quasiment on arrive sur les 3000 followers sur les réseaux. Tout ce qui est pris est bon à prendre pour les enfants. Ils ont des besoins en matériel spécialisé, ils ont des besoins, les véhicules PMR, les sourires, c'est important pour eux.
Un soutien qui fait chaud au cœur des parents du petit Bastien, 8 ans, atteint d'une maladie génétique rare près de Dunkerque. Pour Audrey et Guillaume, cette opération va au-delà de l'aide financière.
C'est une vraie chaîne de solidarité. En fait. C'est beau à voir, surtout avec la conjoncture actuelle. Pour le coup, nous, ça va aider à financer un bras articulé pour lui positionner sa tablette de communication sur son fauteuil électrique pour qu'il puisse être un petit garçon le plus normal possible.
On vit seul avec les enfants, donc le handicap. Ça nous touche énormément.
Ça nous permet d'avancer.
Entre deux entraînements avant leur randonnée, Charlie et ses partenaires rugbymen font donc grimper la cagnotte.
Et si vous voulez les soutenir, rendez-vous sur leur page Facebook intitulée Panda Life Coach. Merci Franck Hanson. Pascal, vous ouvrez le dialogue dans 5 minutes avec les auditeurs. Je pense qu'on va parler politique aujourd'hui.
Mais oui, on va parler politique et j'entendais Gilles Platré. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous à un tel niveau de maturité politique qu'on ne peut pas entendre Gilles Platré sans penser à la langue de bois. Parce que ce qu'il dit est inaudible. Quand vous avez Gérald Darmanin, quand vous avez Édouard Philippe, quand vous avez Bruno Le Maire et puis aujourd'hui Renaud Muselier qui sont passés des Républicains à La République En Marche, évidemment qu'il y a des passerelles entre les deux, évidemment. Donc de venir dire les électeurs sont cocus, etc., je pense que c'est inaudible. Voilà. Maintenant, je soumets ça aux auditeurs.
Voilà, peut-être c'était l'édito de Pascal.
Bah, peut-être, oui, quoi. Peut-être. Non, j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est l'édito de tout le monde.
Je pense
que pour
les électeurs LR, c'est assez compliqué en ce moment.
Mais les électeurs LR, ils n'ont plus de leader et ils n'ont plus de programme. Mais c'est la même chose pour le PS. Donc, ils vont se réunir dans une cabine téléphonique, les uns comme les autres.
C'était le Parti radical, je crois.
Ouais, je crois, mais c'est pour ça, d'ailleurs. C'est exactement le « en même temps macronien ». Donc, en fait, quand on disait tout à l'heure, il restera les extrêmes, et puis Macron, voilà.
Allez, le débat est ouvert. La météo, Peggy Broche, c'est toujours un petit peu juste, hein, côté température.
Oui, c'est vrai, Christelle. 14 seulement cet après-midi à Brest, comme au Havre. 16 degrés à Rennes et Strasbourg. 18 à Paris, Nevers et Limoges. 19 à Grenoble et Marseille. 20 à Montpellier et Toulouse. Et 21 à Bordeaux. Alors, côté ciel, c'est une très belle journée, bien ensoleillée. On a du très beau temps au sud de la Loire avec, allez, peut-être une petite averse possible de pluie ou de neige sur les Pyrénées. Et puis, au nord de la Loire, quelques nuages arrivent, mais c'est juste pour la déco, c'est pas grand-chose. Des nuages plus nombreux et plus épais vont vraiment arriver en fin d'après-midi le long des côtes de la Manche.
Et demain, on sort le parapluie.
Changement de temps, exactement. Un temps gris, pluvieux, avec du vent sur la moitié nord et un temps plus sec et plus ensoleillé sur la moitié sud. Cette zone pluvieuse va se décaler vers le sud. Du coup, la Normandie et les Hauts-de-France vont retrouver des éclaircies. Le soleil brillera également entre les Pyrénées et les Alpes. Et puis, le tout sous des températures qui seront encore en baisse au nord. 12 au Havre, 14 à Nantes, 16 à Limoges, 17 à Paris, 20 à Lyon et 21 à Marseille.
Merci, Peggy. À suivre, le rappel des titres, il va être 13h sur RTL. Bon appétit.
RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et Dominique est déjà avec nous. Emmanuel Macron a-t-il piégé les Républicains selon vous? Bonjour Dominique.
Bonjour Pascal. Oui, selon moi, je me sens vraiment couillonné. On s'est fait vraiment avoir par Macron.
Bon, bah, écoutez, c'est clair. Christelle le rappelle des titres.
Et la SNCF s'occupe de vos vacances avec la perspective du déconfinement. 5 millions de billets sont proposés à 39 euros maximum sur 3000 destinations à partir d'aujourd'hui jusqu'au 19 mai. Ils sont utilisables sur les Ouigo, Inouï et Intercité. Un tarif unique est proposé à 8 euros pour les enfants de moins de 12 ans. Un rappel, c'est à partir d'aujourd'hui que disparaît la barrière des 10 km. Par ailleurs, dans ce retour progressif à la normale, les lycéens et collégiens ont retrouvé leur salle de classe, sauf ceux des départements les plus touchés par le virus. Les élèves de 4e, 3e reviennent en demi-jauge et tous les lycéens. Nordal Lelandais est apparu en chemise bleu ciel, cheveux et barbe poivre et sel. Il a décliné son identité d'une petite voix. Il est jugé à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Savoie pour le meurtre du caporal Arthur Noyer en 2017. Trois morts dans une avalanche dans les Hautes-Alpes, à Villard-d'Arène. Le drame a eu lieu dans un couloir près du refuge Adèle Planchard à 3160 mètres d'altitude.
Les auditeurs ont la parole.